Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Bonjour à tous, je suis Sonia Ouled Ben Saïd sur IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits et j'ai le plaisir d'avoir à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. L'émission Tous les droits de ce jour est consacrée aux droits de la famille. L'émission Tous les droits, c'est l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi, mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois avocates du barreau du Val d'Oise qui exercent en droit de la famille, un droit que l'on rencontre souvent sans l'avoir choisi. Il accompagne les grands moments de la vie, se mettre en couple, se marier, devenir parent, mais aussi les périodes plus délicates comme une séparation, un divorce, un conflit autour des enfants ou une succession parfois compliquée. C'est un droit profondément humain parce qu'il touche à l'intime, aux émotions, aux liens affectifs et derrière chaque dossier. Et il y a des histoires de vie, des équilibres à préserver et surtout des personnes à protéger, en particulier les enfants. Pour mieux comprendre ces enjeux, décrypter les règles juridiques et répondre aux questions que beaucoup se posent, je reçois aujourd'hui Maître Sandrine Abbé Cassis, Maître Julie Gaspari et Maître Simone Bulas. Bonjour Maître Sandrine Abbé Cassis.
Bonjour Sonia.
Vous êtes avocate au barreau du Val d'Oise depuis le 9 septembre 1996.
C'est ça.
Votre cabinet est situé à Hermont.
Tout à fait.
Vous exercez en droit de la famille, droit des affaires et en droit civil. Et vous avez deux mentions de spécialisation, en droit de la famille et du patrimoine et en droit des personnes.
En fait, j'ai une mention de spécialisation en droit des personnes qui contient le droit de la famille, la succession, les régimes matrimoniaux. Bref, qui englobe tout ce qui concerne le droit de la famille.
Vous nous en direz plus sur ces mentions de spécialisation et sur votre exercice. Je suis très heureuse de vous recevoir Merci. Aujourd'hui dans cette nouvelle émission de Tous les droits. À vos côtés, Maître Simone Bulas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau du Val d'Oise.
Tout à également. Fait.
Votre cabinet est situé à Pontoise.
Oui.
Vous exercez en droit de la famille et en droit des mineurs.
Tout à fait.
Vous êtes une avocate très engagée et je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Enfin, Maître Julie Gaspari, bonjour.
Bonjour Sonia.
Une habituée de l'émission Tous les droits, que je remercie pour sa fidélité. Vous êtes avocate également au barreau du Val d'Oise. Votre cabinet est situé à Pontoise. Et aujourd'hui, vous allez répondre aux questions des auditeurs en droit de la famille. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui.
Merci à vous, Sonia, pour l'invitation.
Alors, je vous propose de commencer cette émission comme je le fais à chaque fois. J'interroge mes invités sur leur parcours, leur motivation pour devenir avocat. Et je propose de commencer par vous, Maître Sandrine. Abbé Cassis, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous parler de votre parcours?
Tout à fait. Donc, je suis avocat depuis presque 30 ans maintenant, sur le barreau du Val d'Oise. J'ai commencé mon exercice professionnel en travaillant dans des cabinets plutôt généralistes. Et puis ensuite, je me suis orientée vers tout ce qui concernait le droit de la famille. J'ai donc passé une mention de spécialisation en novembre 2007 pour pouvoir avoir cette spécialisation en matière de famille et tout ce qui concerne le droit de la famille, donc les divorces, les séparations, les enfants, mais aussi les régimes matrimoniaux et les successions, parce que c'est important, il y a beaucoup de contentieux sur ça. Et donc j'ai passé ma spécialisation en 2007, donc ça fait 30 ans que je fais du droit de la famille presque. Le temps passe vite et donc voilà, donc j'ai une expérience en la matière quand même assez ancienne maintenant. J'ai mon cabinet sur Hermont depuis plus de 25 ans et j'ai également un cabinet parisien depuis une quinzaine d'années dans le 7e arrondissement, boulevard Saint-Germain. Voilà, donc j'exerce principalement sur Pontoise, mais un peu partout évidemment, lorsque les clients nous le demandent.
Et le droit de la famille, alors c'est une matière qui s'est imposée à vous ou
c'est une matière qui s'est imposée à moi parce que j'ai commencé une collaboration dans un cabinet où mon maître de stage qui était à l'époque bâtonnier, qui était madame Hélène Tortel. Elle avait cette mention, elle, de spécialisation. Et donc, j'ai commencé à travailler avec elle sur ce domaine du droit de la famille. Et puis, vu que le droit de la famille m'a plu, parce que c'est quand même une matière intéressante, c'est là où on rencontre les gens, c'est là où ça touche l'affect, le sentiment, les enfants. Donc, je me suis intéressée à cette matière que je pratique toujours avec autant de plaisir.
Et donc, cette mention de spécialisation, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que tous les avocats n'ont pas de mention de spécialisation.
Non, une mention de spécialisation, c'est un examen qu'on passe dans le cadre de l'école d'avocats. C'est un examen où on est auditionné par un juge, un professeur universitaire, un avocat pendant une heure, et c'est un examen sur lequel on a tiré un sujet au sort sur le droit de la famille, en tout cas sur la spécialisation, un sujet qui concerne notre spécialisation. Donc on passe un oral pendant une heure, et puis si on réussit, ben on est spécialisé. Et croyez-moi, c'est pas simple, parce que on peut penser qu'on est extrêmement compétente en la matière, mais quand on se retrouve à faire un oral, il y a des questions qui sont un peu compliquées. Mais bon, j'ai réussi ma mention de spécialisation, de sorte qu'aujourd'hui, je peux être me revendiquer comme étant une spécialiste en la matière, puisque j'ai cette mention de spécialisation. Je n'ai pas juste une activité dominante, mon cabinet, mais j'ai une spécialisation en la matière.
Oui, merci de le rappeler. C'est un message que je délivre souvent à l'attention des auditeurs. Donc, les avocats peuvent avoir une activité dominante, donc ils exercent principalement dans une matière ou une autre, mais tous ne sont pas spécialisés. C'est un diplôme, voilà.
Qui exactement, c'est un diplôme, c'est une mention que l'on va passer. Et moi, j'invite tous nos jeunes confrères à se spécialiser, à passer des mentions de spécialisation, parce que c'est l'avenir de leur cabinet.
Oui, vous avez raison. Mais alors, du coup, pour avoir ces spécialités, il faut quand même revendiquer une expérience.
Pour avoir ces spécialités, il faut avoir au moins travaillé 5 ans dans le domaine. Et il faut être légitime à passer cette mention de spécialisation. C'est pas facile du tout. Même si ça fait des années qu'on exerce cette matière, cette mention, elle est pas facile à avoir. Donc, il faut vraiment se présenter en ayant travaillé au préalable.
Oui, parce que je crois, sauf erreur de ma part, il y a une partie, donc il y a un oral, mais vous préparez
on doit justifier d'avoir travaillé dans cette matière. Et puis, on a, comme un grand oral, en fait, on tire un sujet au sort, on a quelques instants de préparation, puis ensuite, on affronte surtout ce qui est difficile à affronter. C'est pas les avocats, mais c'est surtout les magistrats et les professeurs universitaires, parce qu'ils attendent de nous des réponses qui sont universitaires, alors que nous, on va faire des réponses d'avocats, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, mais parfois un peu trop, quoi.
Oui, ça nécessite, c'est un reproche qu'on fait souvent aux avocats.
C'est un reproche qu'on fait souvent aux avocats. Donc moi, il faut savoir me couper la parole, parce que je peux vous faire 1h30, en fait.
Mais du coup, juste pour préciser, c'est quand même le droit de la famille. Dites-moi si je me trompe, mais c'est quand même un métier qui est au cœur des enjeux de société, parce qu'il a beaucoup évolué. Il évolue aussi notamment en fonction de la société, comment elle change, la notion de famille. Est-ce que c'est un métier qui, enfin.
Ouais. Alors le droit de la famille, moi, j'ai vu son évolution. Puisque comme je peux revendiquer 30 ans de barreau, ce qui ne me rajeunit pas, j'ai vu l'évolution en fait du droit de la famille, l'évolution du droit du divorce, l'évolution des couples aussi. Il y a quand même encore beaucoup de couples mariés, donc beaucoup de couples qui divorcent, mais il y a une diversité de couples non mariés, il y a des couples qui sont homosexuels aussi, qu'on peut rencontrer dans le cadre de notre activité. Et ça, il y a une évolution qui est énorme, mais surtout l'évolution en droit de la famille qui me paraît primordiale en ce qui me concerne, c'est que aujourd'hui, on va vers de la négociation. Avant, on allait directement vers du contentieux. C'était la guerre des roses. Aujourd'hui, les avocats, en tout cas, leur mission, c'est surtout d'accompagner les gens dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Ils sont tous très touchés quand ils viennent nous voir. Ils ont une situation émotionnelle qui est difficile. Il faut que nous, les avocats, nous les accompagnons dans la négociation. C'est la clé, en fait, pour une séparation qui se passe bien. Et ça, c'est une évolution. Et il faut que les avocats prennent la main sur la négociation, parce que c'est le meilleur des résultats pour tout le monde, dans l'intérêt de nos clients, dans l'intérêt des enfants. Et c'est vraiment, aujourd'hui, je pense que c'est la clé de la réussite d'une séparation, c'est savoir discuter, même si c'est pas facile. Il y a des avocats qui sont là, et nous, les avocats, on est le porte-parole pour discuter.
Oui, c'est un mouvement alors qu'on voit en droit de la famille, mais qu'on commence à voir aussi dans d'autres matières. Voilà, les avocats sont de plus en plus invités à ce rôle de médiateur. On peut même se former maintenant pour
exactement.
Ça. Voilà, bon, merci pour toutes ces précisations. Maître Simone Bulas, alors à vous, moi, je suis très curieuse aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et comment vous avez décidé de devenir avocate et à plus forte raison en droit de la famille?
Alors, j'ai décidé d'être avocate tout simplement pour parce que mes parents ont subi une séparation quand même assez difficile. Et donc, à la suite de cela, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument accompagner, puisque les avocats que mes parents ont pu rencontrer n'étaient pas forcément investis. Donc, ça vous donne une motivation. Puis par la suite, c'est vrai que... on se dit cette matière est vraiment très intéressante, ça touche beaucoup de personnes. Il y a des confrères qui n'aiment absolument pas faire cette matière puisqu'ils considèrent que il y a le côté humain. Il faut accompagner ces personnes puisqu'un divorce, même à l'amiable, c'est tout un accompagnement. Les personnes vous font confiance puisqu'on leur confie, on nous confie leurs enfants, leurs biens. Il faut pouvoir décider comment cette répartition va pouvoir se faire, qui aura la garde des enfants, bien les conseiller puisque parfois certains sont déçus des réponses puisque ils viennent nous dire voilà ma situation, j'ai mon voisin qui est exactement la même situation et j'aimerais avoir la même réponse. Sauf que chaque dossier est vraiment très différent. Et on ne peut pas aborder un même dossier de la même manière, puisque chaque parcours de famille est différente. Et il faut absolument pouvoir les rassurer, puisque je pense que c'est avant tout les rassurer pour qu'ils puissent vous confier aisément tout ce qu'ils ont parcouru, subi, parce que parfois c'est pas évident. Il y a la honte, il y a la gêne, et certains mettent du temps avant de vous faire confiance. Mais on voit une évolution. Moi, je vois des clientes ou des clients qui viennent la première fois, sont complètement perdus. Et puis progressivement, au bout de 2 ans, je vois de nouveau le sourire sur leurs lèvres, sur leur visage. Je vois un changement physique, une prise de conscience, une prise de confiance. Je pense que c'est important. Et c'est principalement pour cette raison que j'ai choisi cette matière. Accompagner ces personnes dans une période de leur vie qui est difficile et ils ont besoin d'être conseillés. Je pense que c'est plus important.
Et donc, vous avez prêté serment quand alors vous...
En 2003. Fait 23 ans que j'exerce. C'est mon activité dominante avec le droit des mineurs, puisque je pense que les deux matières sont de plus en plus liées. De plus en plus dans les procédures, il y a des plaintes. Il y a des difficultés familiales. J'interviens régulièrement dans le cadre des auditions des mineurs devant le juge aux affaires familiales. Puis également devant le juge pour enfants. Souvent, les affaires en matière familiale basculent vers le juge pour enfants puisqu'on s'aperçoit que y a des parents violents, des parents qui ne parviennent pas à communiquer, donc de ce fait mettre les enfants face à un conflit de loyauté. On a des enfants qui sont en souffrance, qui ont besoin d'être suivis par un psychologue, mais quand on est en présence de deux parents qui refusent de communiquer, le suivi ne peut pas se mettre en place. Donc je pense que c'est vraiment indispensable de maîtriser un petit peu les deux matières pour pouvoir accompagner au mieux ses enfants et ses familles.
Merci pour toutes ces précisions et de nous expliquer un peu cette complémentarité dans votre activité en droit de la famille et en droit des mineurs. Merci pour ces explications. Maître Julie Gaspari, alors vous, les auditeurs vous connaissent, mais répétez-nous comment vous avez décidé de devenir avocate.
Alors, comment j'ai décidé Je m'en souviens plus exactement. Ce que je sais, par contre, c'est que c'était en cinquième. J'étais au collège. Ouais, j'étais au collège. Alors, j'avais pas trop c'était avocat ou magistrat. Enfin, voilà. Mais le parcours de vie fait qu'à un moment donné, moi, j'avais vraiment envie de venir en aide aux mineurs. Voilà. Et je savais pas en cinquième encore comment. Et puis, la vie fait que, voilà, le droit. Et puis, le CAPA. Et effectivement, j'ai prêté serment en 2012. Donc, au départ, j'ai passé un master en sciences criminelles. Donc, j'étais vraiment orientée sur le pénal et puis sur les mineurs. Et, je pense que je serais pas la seule à le dire. Vous partez dans une voie et puis parfois, ce sont d'autres matières qui vous choisissent. pardon. Alors, je rejoindrai Simone Bulas sur le fait qu'effectivement, quand on fait du droit des mineurs, parce qu'on fait, je fais partie du groupe mineur, donc du coup, quand on fait du droit des mineurs, on est amené très souvent à, ensuite à traiter, voilà, le volet famille. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je crois, que j'ai été amenée progressivement à faire du droit de la famille, donc à me former un peu plus en droit de la famille, à travailler avec des cabinets qui du coup m'ont confié des séparations, des conflits afférents effectivement à la résidence des enfants, mais aussi au divorce, etc. Et c'est comme ça finalement que j'y suis venue dans la pratique et pas forcément comme un choix de départ. Et aujourd'hui, c'est mon activité dominante avec le droit des mineurs. Et ça demande... Alors moi, j'ai pas de spécialisation et voilà, je ne peux donc pas me revendiquer spécialiste. Simplement, c'est ma dominante et il faut vraiment... il a fallu aussi se continuer à se former et à se tenir informé des évolutions et des changements de procédure. Donc et aujourd'hui, je prends plaisir à accompagner effectivement les clients et les gens qui viennent me voir dans ce domaine. Et ça demande finalement plus que des compétences techniques et juridiques. En plus de cela, ça demande forcément aussi beaucoup de d'écoute. Parfois, on a l'impression d'être un peu psychologue. Parfois, on est un peu assistante sociale parce qu'on les aide aussi dans leur démarche. Enfin voilà, c'est vraiment une matière qui demande une polyvalence et des compétences spécifiques que certains confrères n'ont pas du tout envie de faire. Ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est voilà, ça demande un vrai engagement et c'est à la fois très quand on réussit à faire quelque chose, on est arrivé à une situation qui épanouit tout le monde, on est à la fois très satisfait, mais ça demande voilà beaucoup d'énergie et c'est un bel engagement, je trouve, cette matière.
Non, merci pour votre engagement. J'ai encore quelques questions pour vous et sur votre activité et je vous propose de marquer une première pause musicale avant de retrouver mes invités pour cette émission Tous les droits consacrés aux droits de la famille.
C'est toujours tout blanc, tout noir ou gris. Y a jamais de couleur, non. Y a jamais d'envie. Et même si je sais que c'est fini. Je reste quand même quand tu me le dis. Tu me reviens souvent, tu me laisses pas partir. Tu dis que je te manque.
IDFM 98FM.
Vous êtes bien sur IDFM Radio, vous écoutez l'émission Tous les droits, une émission aujourd'hui consacrée aux droits de la famille. J'ai le plaisir de recevoir trois avocates au barreau du Val d'Oise, maître Julie Gaspari, maître Sandrine Abécassis et maître Simone Bulas. J'avais encore quelques questions pour vous, maître Gaspari, sur votre parcours et sur votre exercice. Votre cabinet, il est bien à Pontoise?
Oui, mon cabinet est à Pontoise et Allez, je le dis.
Allez, dis-le. Dites-le, pardon.
Je suis effectivement... Enfin, mon cabinet est en train d'évoluer puisque je suis en train de m'associer avec Aurore Ventura, qui fait aussi du droit de la famille et pas mal de droit... du contentieux de la sécurité sociale aussi, et avec Antoine Delplat, qui lui fait du pénal des affaires et des baux commerciaux. Et là, voilà, on est en train de monter une structure tous les trois, à Pontoise toujours. Et c'est en cours, mais je suis très contente de cette évolution.
C'est une belle évolution. Et donc, au sein de cette nouvelle structure, vous vous occuperez toujours donc du droit de la famille,
droit des mineurs, et puis voilà, quelques dossiers en droit civil plus classique, effectivement, mais oui, je continuerai à exercer dans ces matières-là.
Et j'ai encore une dernière question pour vous, en fait, j'en avais plusieurs. vous expliquez donc que voilà, vous êtes avocat en droit de la famille et que vous accompagnez des familles dans des moments parfois difficiles, mais que vous n'êtes pas psychologue. Alors comment ça se passe aussi? Parce que il faut pas toujours. Comment vous faites dans ces moments-là? Est-ce que vous arrivez à expliquer à vos clients voilà qu'il y a vos domaines de compétences, vous allez intervenir là-dessus, mais est-ce que vous conseillez des fois d'aller voir des psychologues? Comment ça se passe? C'est quand même une dimension que vous ne pouvez pas gérer, mais que vous devez
gérer. Voilà. Alors ça dépend vraiment des gens qui viennent nous voir, évidemment chacun a sa personnalité, sa capacité à entendre ou pas les conseils qu'on peut donner, hein, parce que voilà, l'histoire de chacun fait que on peut plus ou moins être ouvert à ce type de conseils. C'est vrai que lorsqu'on reçoit des gens qui sont profondément marqués ou en colère aussi parfois, à force de les rencontrer, à force de les avoir au téléphone, à force de les avoir en rendez-vous, parfois on sent le moment où on peut leur dire voilà, peut-être que ce serait bien que vous aussi vous pensiez à être accompagné, à vous faire aider, parce que là je sens que, ou parce que dans l'intérêt de vos enfants, enfin on essaye d'amener les choses. C'est pas toujours possible, il y a des gens où vous sentez que de toute façon voilà, vous allez vous heurter à... Enfin, ils sont pas du tout enclins à ce type de suivi ou pas. Après, moi, je considère que ça peut faire partie de ma mission de conseil quand c'est pour les servir aussi dans leur situation. C'est-à-dire que je vais pas leur dire oui, vous auriez besoin d'être suivi comme ça gratuitement pour le dire. Non, c'est parce que peut-être que ça peut amener à débloquer une situation, ça peut amener à une meilleure prise en charge, des enfants, à rétablir une communication, etc. Donc. Toutes les situations ne le justifient pas, mais en réalité, c'est ça aussi qui est parfois bien dans ce métier. Enfin, bien, je sais pas si c'est le mot, mais c'est que parfois le simple rendez-vous avec nous et au bout d'une heure, une heure et demie, lorsqu'ils ont aussi mis les choses sur la table comme ça, bah parfois ça fait du bien aussi, et ça c'est en ça que parfois on a ce rôle de psychologue. C'est on n'est pas psychologue, mais voyez de d'écoute. Voilà, d'écoute, d'oreille, et parfois ils sortent de là en se disant « Ah bah oui, finalement, là ça a fait du bien de vous parler de ça, parce que je me suis rendu compte que... » Et parfois ça suffit, juste ce rendez-vous, cet échange, et... Mais voilà, après, je pense que pour le coup, chaque confrère voit sa pratique à sa façon, et peut-être que des conseils vous diront, des avocats vous diront, mais moi c'est pas à moi de leur dire de les aiguiller sur ce point, ça leur est leur vie privée, et moi je fais du juridique, et c'est aussi une façon de voir les choses. Après c'est un domaine qui est tellement dans l'humain, qui est tellement dans l'affect, que c'est quand même compliqué de faire uniquement du juridique et de pas à un moment donné aller sur l'écoute et le conseil un peu plus large que le conseil juridique.
Oui, je vous remercie voilà de le rappeler, parce que c'est un droit profondément humain. On vient vous voir en général, on n'a pas envie de voir un avocat, mais si on s'y trouve contraint, c'est dans des moments douloureux. Donc c'est un métier, en tout cas avocat en droit de la famille. Moi par exemple, je trouve que c'est extrêmement difficile. Je ne peux pas faire cette matière, donc j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Merci de le faire et merci de venir parler à ce micro de votre engagement et de toutes les composantes du métier d'avocat en droit de la famille. Nous avons reçu un grand nombre de questions. J'en ai sélectionné quelques-unes qui vont nous permettre d'aborder un certain
nombre d'aspects que vous pouvez rencontrer régulièrement dans vos cabinets, que ce soit des divorces, des séparations hors mariage, des litiges avec les enfants et la place des enfants aussi dans ces séparations. Maître Sandrine Abécassi, je vous propose de répondre à cette première question. Je suis mariée depuis 30 ans, nous avons deux enfants majeurs, nous sommes propriétaires d'un pavillon à Éragny et nous souhaitons divorcer. Comment devons-nous procéder ?
Alors, j'imagine qu'il s'agit d'une question d'un auditeur et pas d'une auditrice. On ne sait pas. Bon. Donc, si l'un de mes clients venait à mon cabinet pour m'exposer et me donner ces quelques informations, je serais dans l'obligation au préalable de lui poser d'autres questions qui ont des conséquences, et notamment lorsque cet auditeur vous dit qu'il est propriétaire d'un pavillon d'habitation à Éragny, il faudra automatiquement qu'on lui pose la question de son régime matrimonial qui a des conséquences évidemment sur les conséquences liquidatives du régime matrimonial. Mais pour simplifier, parce que je sais que je n'ai pas tout le temps pour vous raconter l'histoire de ce monsieur ou de cette dame, il n'en demeure pas moins qu'on me donne des informations qui sont importantes. 30 ans de mariage, propriétaire d'un bien immobilier qui, je suppose, constitue la résidence principale des époux, et des enfants probablement majeurs au regard des années de mariage. Donc, je dirais au préalable que dans l'hypothèse d'un divorce, si cette personne veut divorcer, évidemment que je l'inviterai à nouveau, je le répéterai à chaque fois, d'envisager un divorce à l'amiable. Et ça me permet donc de dire et de rappeler que le divorce à l'amiable a évolué. Et qu'aujourd'hui, le divorce à l'amiable, il n'y a plus l'intervention d'un juge aux affaires familiales. Le divorce à l'amiable est un divorce qui se fait avec les avocats, en accord entre les époux, et ce sont les avocats qui rédigent la convention de divorce. Et cette convention de divorce est enregistrée dans l'étude d'un notaire. Ça s'appelle un dépôt au rang des minutes du notaire. Ce n'est donc pas le notaire qui fait le divorce, ce sont les avocats qui accompagnent leurs clients, ce sont les avocats qui discutent entre eux des conséquences, qui abordent toutes les questions relatives au divorce. Et ensuite, lorsque tout le monde est d'accord, cet acte est signé par les avocats, par les époux qui deviendront ex-époux, et encore une fois enregistré dans l'étude d'un notaire. Donc si ce client vient me voir, je vais aborder avec lui des points qui sont importants. Un, quel régime matrimonial, sur la liquidation du régime matrimonial. Deux, 30 ans de mariage, je vais interroger sur qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 ans de mariage, le rôle de l'épouse et le rôle de l'époux, si l'un et l'autre ont travaillé, s'ils ont eu des enfants, si par exemple l'épouse a consacré du temps dans la vie familiale et qu'elle a peut-être moins travaillé que son époux, parce que tout ça va avoir des conséquences sur les modalités de la séparation des époux. Mais en quelques lignes, je lui dirais d'abord de discuter de ce patrimoine immobilier. Il va falloir soit le vendre, parce que quand on divorce, on reste pas indivis, on reste pas ensemble sur un bien. Donc soit ce pavillon, il sera vendu et donc le prix de vente sera partagé entre monsieur et madame, soit ce pavillon sera racheté par l'un ou par l'autre des époux, à charge pour celui qui rachète de payer la part de l'autre. Et dans ces conditions, dans le cadre du divorce, il faut envisager d'abord, un, parce que vous me dites qu'il y a 30 ans de mariage et que par conséquent je considère qu'il n'y a pas d'enfant mineur, mais ce qu'il faut aborder, c'est quelles sont les conséquences financières de la séparation. Parce que ces conséquences financières, elles vont englober comment je vais liquider mon patrimoine, premièrement, et deuxièmement, quelles vont être les conséquences, les rapports entre époux. Parce que si ce monsieur ou cette dame, cet auditeur ou cette auditrice vient me voir, on va dire que c'est un auditeur, dans cette hypothèse, je dirais attention, 30 ans de mariage, je vais devoir examiner ce qui s'est passé pendant 30 ans dans l'hypothèse où l'époux ou l'épouse, mais encore, c'est encore aujourd'hui plutôt l'époux, qui pourra régler une prestation compensatoire. Et qu'est-ce que c'est la prestation compensatoire ? C'est de verser à l'autre époux un capital qui permet, autant que faire se peut, de combler la disparité de train de vie au moment de la rupture. Donc la prestation compensatoire, c'est important d'en discuter longuement. C'est important d'expliquer le fondement d'une prestation compensatoire. Je vous cache pas que beaucoup de clients qui viennent me voir disent « Jamais de la vie, je paierai une prestation compensatoire, oui. » Évidemment. Et je vais donc expliquer pourquoi la prestation compensatoire. Parce que si l'épouse, en l'espèce, elle a passé 25 ans à élever les enfants et que son mari ou inversement, hein, et où son mari a travaillé à une belle carrière professionnelle, bah, au jour de la rupture, l'épouse, elle aura presque pas de retraite, en tout cas, peu de revenus, et cette disparité, elle existe, et par conséquent, quand elle existe, elle est autant que faire se peut, comblée par une prestation compensatoire. Donc cet auditeur qui vous pose cette question, je lui dirai, examinons d'abord, par rapport à votre régime matrimonial, les conséquences liquidatives du régime matrimonial, comment on va mettre fin à cette indivision qui a existé pendant 30 ans, et je lui rappellerai les conséquences financières d'un divorce dans le cadre éventuellement d'une prestation compensatoire. Mais en tout état de cause, je lui dirai, il est bien préférable d'aller aborder toutes ces questions de manière amiable et d'éviter un contentieux. Si par extraordinaire il y a un contentieux, je rappelle que la compétence du tribunal est celle du lieu du domicile conjugal. En l'espèce, vous m'avez dit Rani, donc c'est le tribunal judiciaire de Pontoise, le JAF du tribunal judiciaire de Pontoise. Et s'il n'y a pas de domicile conjugal, parce que imaginons que les époux sont déjà séparés, la compétence, elle est rattachée au lieu de résidence des enfants mineurs. Donc c'est, on prend toujours ces deux références-là. Et enfin, un couple marié depuis 30 ans avec des enfants majeurs qui sont l'un et l'autre séparés et qui ne vivent plus au domicile conjugal, le lieu de compétence sera le lieu de la résidence du défendeur. Donc ça, c'est important de le savoir, mais souvent c'est rattaché au domicile conjugal ou à la résidence des enfants. Donc globalement, je lui expliquerai plein de choses à cet auditeur, mais je lui rappellerai qu'il y a donc des conséquences liquidatives du régime matrimonial et des conséquences financières en raison de la rupture du lien conjugal.
Merci pour cette réponse extrêmement claire qui nous permet de rappeler à nouveau que s'adresser à un avocat qui maîtrise parfaitement ces questions est fondamental. Alors vous avez parlé du en cas de contentieux du lieu de résidence des enfants ou du lieu du domicile conjugal. Est-ce que vous pourriez juste nous dire un mot sur la compétence des avocats du barreau du Val-d'Oise? Donc c'est-à-dire que vous, par exemple, si vous êtes avocate au barreau du Val-d'Oise, vous pouvez intervenir uniquement auprès du tribunal judiciaire de Pontoise ou vous pouvez intervenir ailleurs?
Alors, les avocats peuvent plaider partout, dans toute la France. Ils peuvent traiter des dossiers qui sont soit sur le Val d'Oise, soit ailleurs, évidemment. Mais l'avocat a une compétence exclusive sur son barreau pour déposer des actes de procédure. Ce qui veut dire que si, aujourd'hui, j'ai une affaire à Nice, ce qui est toujours sympa d'aller passer un week-end là-bas, je pourrais évidemment traiter le dossier de mon client, son dossier de divorce, le cas échéant. Mais j'aurais besoin de l'accompagnement d'un avocat postulant, c'est-à-dire un avocat rattaché au barreau de Nice, qui va déposer pour moi mes actes de procédure. Donc globalement, l'avocat, il peut plaider partout, il peut défendre n'importe qui sur le territoire, mais il a besoin, si c'est pas son barreau de rattachement, d'un confrère sur le barreau en question, qui fera les actes de dépôt, enfin qui fera ce qu'on appelle la postulation, c'est-à-dire qui va déposer nos actes de procédure. Et ça se passe sans difficulté. On travaille avec beaucoup de postulants. Nous-mêmes, sur Pontoise, on est souvent des postulants de nos confrères qui sont dans d'autres barreaux.
C'est très clair. Merci beaucoup. Une petite pause musicale de nouveau avant de poursuivre cette émission consacrée aux droits de la famille. À tout de suite.
Me. But look here. so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me, 'cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now, 'cause when I take it to the floor, get down, you know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song of this pretty little lady. 'Cause if she dances, get a Chinook right now. I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, whoa, 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 whoa.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous êtes sur IDFM Radio, vous écoutez l'émission Tous les droits, une émission aujourd'hui consacrée aux droits de la famille, et j'ai le plaisir de recevoir trois avocates au barreau du Val d'Oise exerçant dans cette très belle mais difficile matière, maître Julie Gaspari, maître Abbé Cassis et maître Simone Bulas. Maître Simone Bulas, nous avons reçu une question d'auditeur pour vous qui nous indique: nous souhaitons divorcer à l'amiable mais nous possédons plusieurs biens et nous avons par ailleurs un désaccord sur les frais de scolarité dans le supérieur. Quelle est la procédure à mettre en place et comment doit-on s'organiser?
Alors, c'est une question qui revient régulièrement, puisque bien souvent on a des couples qui souhaitent divorcer à l'amiable, sauf ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour qu'un divorce puisse se faire à l'amiable, il faut d'abord liquider tout en amont. Puisque au jour de la signature de la convention de divorce à l'amiable, il ne doit plus y avoir quoi que ce soit en commun. Donc à partir de là, moi je les invite à se rapprocher très rapidement d'un notaire pour pouvoir déterminer de ce qu'on va faire des biens. Puisque à partir du moment où on ne doit plus avoir quoi que ce soit en commun, soit l'un des époux rachète la part de l'autre. Cela suppose qu'ils ont fait des démarches en amont pour déterminer s'ils ont ou non la capacité de racheter la part de l'autre. Et puis, dans le cas contraire, ils sont obligés de vendre leurs biens. Donc c'est souvent quelque chose qui est difficile à accepter par l'un des époux, puisque c'est bien souvent la maison où ont grandi les enfants, et puis certains s'aperçoivent qu'au moment de la séparation, ils sont dans la capacité de racheter la part de l'autre, et c'est souvent quelque chose de difficile à accepter et à encaisser. Ensuite, à partir du moment où on a commencé à déterminer comment on va décider du sort des biens, il va falloir également aborder la question des comptes. Puisque selon le régime matrimonial choisi, s'il n'y a pas de contrat de mariage, automatiquement tout ce qu'il y a sur les comptes, donc que ce soit le compte courant ou les comptes épargne, peu importe le nom qu'il y a sur les comptes, parce que bien souvent on part du principe que dès lors que c'est des sommes qui sont versées sur un compte au nom d'un des époux, ça lui appartient en intégralité, et au moment de la séparation, il conserve la totalité. La réalité est tout autre. Ils se doivent de communiquer les relevés bancaires, rassembler l'ensemble des comptes et procéder ensuite au partage de l'ensemble de ces comptes. Donc c'est un point qu'on oublie. Il faudra également clôturer le compte commun, puisqu'il n'y a absolument plus rien en commun. Dernier point, les véhicules. Pareil, peu importe le nom qu'il y a sur la carte grise, si ces biens ont été achetés après le mariage, nécessairement, il va falloir décider du sort de ces véhicules et puis déterminer qui récupérera ces véhicules. Ensuite, souvent, on arrive à trouver une solution en ce qui concerne les biens, que ce soit mobilier ou immobilier. Il reste souvent un point de désaccord, c'est la pension alimentaire en ce qui concerne les enfants. Qui plus est, les études dans le supérieur, puisque bien souvent, ça coûte de plus en plus cher, et selon la formation qui a été choisie, ça pose une difficulté. Donc à partir de là, il faut étudier la situation de chacun des époux et déterminer à quelle proportion, en tout cas dans quelle mesure, qui financera les études et quel sera le montant de la pension alimentaire. La seule chose, c'est que les parents, bien souvent, ne sont pas toujours en accord sur ce point, puisqu'on considère que celui qui gagne plus doit participer davantage, sauf que, en réalité, celui qui gagne plus veut plus, ne veut pas participer davantage. Et donc, de ce fait, ça bloque. Soit on parvient à trouver une solution, et tant mieux, ce qui nous permet de poursuivre cette procédure du divorce à l'amiable, soit les époux refusent de se mettre d'accord, et à ce moment-là, il n'y a pas de divorce à l'amiable. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre et accepter. Et ils n'auront pas d'autre choix que de saisir un juge aux affaires familiales pour trancher la question. Ils partiront sur un divorce sur demande acceptée, c'est-à-dire qu'ils sont tous les d'accord sur le principe du divorce. On ne dit pas qui est responsable de quoi que ce soit. Il appartient à chacun des époux, avec leur conseil, de fournir tous les éléments nécessaires pour que le juge puisse trancher et déterminer le montant de la pension alimentaire et à quelle proportion les frais de scolarité ou autres seront pris en charge. Puisque quand on parle d'études dans le supérieur, ça peut être également les frais de logement, les frais de transport, les frais d'habillement. Tous ces frais ne sont pas forcément pris en considération. Ça peut être très élevé. Moi, j'ai récupéré un dossier où chaque année, les frais de scolarité et les frais de logement s'élèvent à 30 000 euros. Donc, c'est un coût exorbitant. Et à partir de là, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et donc, il faut faire trancher la question par un juge. Ils n'auront pas d'autre solution. Et la voie à l'amiable, elle est abandonnée.
Donc la voie amiable, c'est si on est d'accord sur absolument tout.
En intégralité.
Et si c'est pas le cas, eh bien on va devoir s'adresser à un juge.
C'est ça.
Je synthétise correctement.
C'est ça.
Ok. Bon, merci pour toutes ces précisions. Donc là, nous avons abordé des questions de couples qui étaient mariés. Mais quid, Maître Julie Gaspari, des séparations dans des couples non mariés qui sont quand même nombreux, je crois, en France?
Oui,
je sais pas si le mariage est, si les gens, je sais pas, j'ai pas de statistiques.
J'ai pas de statistiques, mais je vois, il y a encore quand même beaucoup de gens qui se marient. Mais, je crois que moi, en tout cas, dans mon cabinet, j'ai 50-50. Je crois que j'ai autant de dossiers de couples mariés que de couples non mariés. Je visualise mes piles et je suis à peu près à la même hauteur. Pardon. On va séparer la question en deux, mais je crois qu'on reviendra sur l'aspect amiable après. Évidemment, un couple qui sépare et qui n'est pas marié, il peut quand même être d'accord sur les modalités de sa séparation. Et notamment, puisque le couple non marié, en général, ce qui l'intéresse, c'est les modalités afférentes aux enfants. Ici, il est d'accord, on en parlera dans un deuxième temps. Donc là, on va partir sur le fait que ce couple non marié qui se sépare n'est pas d'accord sur la résidence des enfants, sur la fixation de la pension alimentaire. Je fais deux petites parenthèses. La première, c'est que lorsque le couple est marié, l'avocat est absolument obligatoire. On peut pas divorcer. Enfin, pour engager la procédure, en tout cas, on est obligé d'avoir un avocat. C'est quand même une différence qui est fondamentale, puisque vous avez des gens qui peuvent saisir le juge de manière tout seul, sans conseil, lorsque le couple n'est pas marié. Évidemment, la plupart du temps, ça m'arrive, et je pense que mes consœurs me contrediront pas. Souvent, on récupère finalement des dossiers de personnes qui ont saisi seules et où ils se rendent compte que finalement, ils ont pas fait les bonnes demandes, ils ont pas. C'est toujours extrêmement compliqué. Donc, je ne pourrais que conseiller quand même de s'adresser à un conseil. Au moins une consultation juridique pour avoir les bons éléments et pour faire les choses correctement. Je voulais quand même faire cette parenthèse-là. La seconde, c'est que le juge aux affaires familiales, pour un couple non marié, il ne peut pas, il n'a pas du tout les mêmes compétences. Ses compétences sont beaucoup plus restreintes et les compétences principales sont afférentes aux enfants, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement des parents et à la fixation de la pension alimentaire. Je synthétise, le juge aux affaires familiales, lorsque les couples ne sont pas mariés, sur la l'attribution du domicile, l'attribution des véhicules, etc. Il n'a pas compétence pour cela. Alors, petite exception lorsqu'effectivement le couple pas marié demande quand même à rester, par exemple la mère souhaite rester dans le domicile, par exemple le temps de la vente ou si elle est locataire le temps de changer d'appartement et elle demande la fixation de la résidence, il peut y avoir des petites exceptions, mais de manière générale, je le dis quand même parce que souvent les gens qu'on reçoit ont du mal à saisir cette différence-là. Le juge aux affaires familiales, lorsque les gens ne sont pas mariés, il a des compétences restreintes. Voilà. Alors, ils sont pas d'accord sur la fixation de la résidence des enfants, sur le montant de la pension alimentaire. Le mieux, évidemment, c'est d'aller voir son conseil. Nous, on va prendre une date d'audience et puis on va essayer effectivement d'entrer en contact avec le confrère adverse si la personne a pris un avocat, puisque ce n'est pas obligatoire. Hein. Et puis, on va essayer, comme le disait ma consoeur Sandrine Abécassis, dans un premier temps, de communiquer, de rétablir la communication et de voir si on peut pas parvenir quand même à un accord. L'aspect financier est souvent ce qui pêche le plus et il s'avère que on a du mal à trouver parfois des accords sur le montant précis de la pension alimentaire. Et souvent, j'ai un dossier en tête que je plaide mardi, quand l'une des personnes quitte la région. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est à moi de payer les billets de train pour les allers-retours des enfants? Est-ce que c'est moi qui vais les chercher, etc. Si on n'arrive pas à trouver d'accord sur ce point, effectivement, c'est le juge qui va devoir trancher et donc on va faire ce qu'on appelle une requête ou une assignation d'ailleurs. Et puis on va, faire état de nos demandes. Dans le cas que j'imagine, moi, je représente j'assiste le père. Il est tout à fait d'accord pour que la résidence des enfants soit fixée chez la mère. Donc je vais dire au juge, mes demandes, c'est la fixation de la résidence des enfants chez la mère. Et puis moi, je voudrais tel droit de visite et d'hébergement. Lui, en l'occurrence, toutes les vacances scolaires. Et puis, ça peut être un week-end par mois, etc. On fait état de nos demandes. Le contradicteur répond à nos demandes. Est-ce qu'il est d'accord sur certains points ou pas? Il fait état de ses propres demandes et le juge va effectivement trancher si on n'a pas réussi à trouver un accord. Mais les questions principales, c'est résidence des enfants, pension alimentaire, qui prend en charge, quels frais. Et encore une fois, on essaye avant tout de discuter.
D'accord, donc si je comprends bien, quand on n'est pas marié et qu'on veut se séparer, on pourrait envisager de se débrouiller tout seul sans avocat, mais vous recommandez quand même fortement au moins une consultation pour parce que je le dis souvent, on se dit un avocat c'est cher, je vais m'éviter la case consultation avocat. Et puis en définitive, on récupère, vous l'avez très bien dit, les dossiers déposés tout seul au JAF, et les gens se rendent compte que c'est pas simple.
Et ils perdent encore plus de temps parce que nous, il faut qu'on récupère le dossier, les pièces, etc. Donc le mieux, c'est quand même à minima de prendre un rendez-vous de consultation, d'être conseillé au mieux. Et puis de toute façon, dans les situations conflictuelles, parce que si on a besoin d'aller voir le juge et lui demander de trancher, c'est que dans les situations conflictuelles. C'est vrai que les gens préfèrent être aussi accompagnés, ne serait-ce que pour communiquer avec l'autre. Parce que parfois, juste cette communication-là, elle est plus possible. Et avoir un tiers, ça permet aussi ça. Ça permet aussi de pouvoir reprendre la communication. Et puis, nous aussi, notre rôle parfois, c'est de dire, mais là, monsieur ou madame, vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est-à-dire que ça, juridiquement, je ne peux pas le faire. Ça, juridiquement, je ne peux pas le demander. Vous voyez, il y a parfois, on a des idées et puis on se rend compte que, ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire que de recadrer sur ce qu'il est possible de faire ou pas, sur les pratiques, il faut rester quand même aussi au clair, notamment lorsque les couples ne sont pas mariés. Le juge aux affaires familiales, dans ce type de situation, ce qu'il prime pour lui, c'est l'intérêt supérieur des enfants. Donc lui, il va juger en fonction de l'intérêt supérieur des enfants. Et ça, nous aussi, je trouve en tout cas qu'on se doit de le dire à nos clients. Ok, vous voudriez ça. Attention, le juge, lui, sa position, c'est l'intérêt supérieur des enfants. Donc, est-ce qu'on peut revoir les choses? Est-ce qu'on peut en discuter? Voilà, c'est aussi ça le conseil.
Merci beaucoup. On reparlera d'ailleurs de la place de l'enfant dans le cadre de séparation. Merci pour toutes ces précisions. Allez, un petit peu de musique et puis on se retrouve dans quelques minutes avec mes invités du jour, toutes avocates en droit de la famille au barreau du Val d'Oise.
Un arbre sans écorce, un mariage sans divorce, des enfants sans emmerde. Des souvenirs sans regret, souffrir sans progrès, mon ami, mais tu rêves. Un cadeau sans merci, un château sans ami, une ombre sans lumière. Grandir sans racines, une rose sans épines, mon ami, toi tu rêves. Alors rêve, rêve, ne te réveille pas, non, oui, rêve, rêve, tu te réveilleras plus. Alors rêve, rêve, ne te réveille pas, non, oui, rêve, rêve, tu te réveilleras plus. Tu te réveilleras plus. Mourir sans faille, réussir son travail, s'embrasser sans amour. Atterrir sans envol, une chanson sans Paul, mon ami, mais tu en rêves. Un été sans hiver, un demain sans hier, une joie sans tristesse. Une soirée sans copain, une partie sans topin, mon ami, mais tu rêves. Alors rêve, rêve, ne te réveille pas, non, oui, rêve, rêve, ne te réveillera plus. Alors rêve, rêve, ne te réveille pas, non, oui, rêve. Plus.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, à l'écoute de l'émission Tous les droits consacrés aujourd'hui aux droits de la famille. Et nous poursuivons cette émission avec mes trois consoeurs, avocates au barreau du Val d'Oise, maître Julie Gaspari, maître Sandrine Abécassis et maître Simone Bulas, qui répondent à vos questions en droit de la famille. Maître Sandrine Abécassis, nous avons reçu une nouvelle question pour vous. Je suis séparée de mon compagnon, nos enfants ont 5 ans et 13 ans et nous ne nous accordons pas sur les modalités de leur résidence. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Alors, juste, pardon, quel âge ont les enfants?
Alors, 5 ans et 13 ans.
5 ans et 13 ans, très bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, donc déjà, s'ils s'entendent pas sur les modalités de la résidence, donc comment on va fixer la résidence des enfants à la suite de la séparation, je leur rappellerai en tout état de cause que la séparation n'a pas d'incidence sur l'autorité parentale. C'est important de parler de l'autorité parentale puisque l'autorité parentale, elle est exercée conjointement entre les parents. Ça veut dire, et c'est pas, il faut être à l'écoute de l'autorité parentale parce que l'autorité parentale, c'est un ensemble de devoirs et de droits qu'ont les parents à l'égard des enfants et qu'ils doivent jusqu'aux 18 ans des enfants partager cette autorité parentale. Ça nécessite obligatoirement que les parents communiquent et évidemment avec une communication de qualité si possible. Donc quand ils vont se séparer, c'est pas parce qu'ils se séparent que l'un des parents a plus de droits que l'autre parent. C'est pas parce que madame, la maman va partir avec les enfants qu'elle a le droit du jour au lendemain de dire ben le père ne verra plus les enfants. Ce n'est pas possible. On partage l'autorité parentale et si on pouvait aussi continuer à se respecter en tant que parents et plus en tant que couple, ça pourrait régler beaucoup de conflits. Mais je sais que ça, c'est un peu l'idéal, mais ça n'existe pas. Néanmoins, les avocats sont là pour réexpliquer. Et au-delà du conseil que va faire l'avocat, et parce que l'avocat a l'habitude des séparations, des conflits entre les parents, il va pouvoir expliquer les conséquences de cette autorité parentale partagée, et notamment dans le cas de l'autorité parentale, où on va fixer la résidence des enfants. Donc j'ai demandé l'âge des enfants, que vous me rappeliez l'âge des enfants, parce que je rappelle un principe qui existe maintenant depuis au moins une dizaine d'années, sauf si je me trompe, mais l'enfant a le droit d'être entendu. C'est un droit qui lui appartient. Donc l'enfant a le droit d'être entendu. Quand il est en âge de capacité d'être entendu, on va considérer avec notre jurisprudence habituelle que c'est après 10 ans et plus. Il a le droit d'être entendu dans toutes les situations qui le concernent, et une simple demande au juge d'affaires familiales, le juge fait droit à la demande d'audition et va l'entendre. Attention, je le dis, c'est hyper important. Entendre un enfant ne veut pas dire que le juge va faire ce que veut l'enfant. Il va entendre et le juge statuera toujours. C'est tous les textes le rappellent, les conventions le rappellent, les conventions européennes le rappellent, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc si un enfant vient dire « j'aime pas mon papa » ou « j'aime ma maman », etc., peu importe, le juge va entendre l'enfant, va entendre à travers ce qu'il va dire, va entendre où est son intérêt et où on va fixer la résidence. Tout ça pour dire que si un couple ne s'entend pas sur les modalités de résidence de l'enfant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé de solution sur « je vais fixer la résidence des enfants chez la maman » ou « la résidence des enfants chez le papa » ou plus classiquement maintenant aujourd'hui une résidence chez l'un et chez l'autre avec un partage entre guillemets, hein, parce que c'est un enfant, on partage pas un enfant, mais un partage de temps à l'égard de l'enfant. Si les parents ne s'entendent pas, il y a plein d'outils pour y arriver. Il y a beaucoup d'outils. Il y a d'abord la médiation familiale. Allons voir un tiers, demandons à un tiers d'être celui qui va entendre ce que veut monsieur ou ce que veut madame, et le tiers peut aider. Et si vraiment il y a un désaccord complet, parce que il y a quand même plein de choses qui font qu'il peut y avoir des désaccords, notamment la violence, notamment l'absence d'un des deux parents, ou le dénigrement, ou le non-respect de l'autre parent, ça fait qu'on n'arrive pas à s'entendre sur des modalités de résidence. L'avocat va donc recevoir son client, le conseiller sur les modalités de la résidence, et à défaut d'accord, il saisira donc le juge aux affaires familiales. Je rappelle que c'est des procédures où il n'y a pas l'avocat obligatoire parce que le couple n'est pas marié. Nous sommes en train de parler de séparation de couple non marié. L'avocat n'est pas obligatoire, mais vraiment, je le répète aussi, hein, ce qu'a dit Julie, l'avocat n'est peut-être pas obligatoire, mais c'est son métier. Ce n'est pas moi, mon métier, de m'arracher les dents, donc je vais voir un dentiste. Donc on a toujours besoin d'aller voir un avocat, au moins en amont, pour avoir un conseil, parce que saisir un juge sans l'avocat, souvent c'est pour avoir des résultats qui sont pas ceux qui étaient escomptés. Donc l'avocat, en cas de désaccord, va saisir le juge d'affaires familiales et va demander au juge d'arbitrer. Très rapidement, il va arbitrer comment le juge ? En fait, le juge, il va arbitrer sur la résidence des enfants parce qu'il a des outils juridiques. Et la loi, elle dit au juge aux affaires familiales, pour fixer la résidence des enfants, vous devez vous référer aux accords passés entre les parents, comment les parents avaient l'habitude de faire. Il a aussi la possibilité de se référer à l'audition des enfants, enfin les désirs des enfants, mais attention, je rappelle, le juge ne fait pas exactement ce que veulent les enfants. Et puis le juge, il a des techniques qui lui sont données, des techniques qui est de nommer un enquêteur social, par exemple, ou une expertise médico-psychologique pour savoir quelle est la place de l'enfant dans la famille et quelle sera la place de l'enfant dans une famille séparée. Et c'est avec l'ensemble de ces éléments, les conseils des avocats, et puis la réflexion de tous, qu'on arrive généralement à fixer une résidence qui convient à l'intérêt des enfants.
Merci beaucoup, c'est extrêmement précis. Maître Julie Gaspari, vous vouliez dire
juste
un mot?
Oui, répondre, enfin, préciser juste, là je prends ma casquette d'avocat mineur, préciser deux petites choses sur les auditions des enfants devant le juge aux affaires familiales. La première, c'est que si cette demande est à l'initiative de l'enfant, alors évidemment, hein, il est conseillé par, enfin, c'est les parents qui doivent lui dire, voilà, on se sépare, et d'où l'importance de l'âge, hein, évidemment. Voilà, on se sépare. Si tu as envie, tu as la possibilité d'être entendu par le juge aux affaires familiales qui va s'occuper de notre histoire. Si l'enfant le souhaite et qu'il fait lui un courrier, le juge ne peut pas faire autrement que de l'entendre. Il doit l'entendre. Ça, c'est la première chose. Si la demande d'audition, elle émane d'un des deux parents, le juge peut l'écarter. Voilà. Si le juge décide d'entendre l'enfant, il va demander à l'ordre des avocats de désigner un avocat du groupe mineur. Donc, Simone et moi-même sommes régulièrement désignés pour assister les enfants devant le juge aux affaires familiales pour ces auditions-là. Ce sont des auditions extrêmement... C'est un rôle vraiment particulier. Et il faut évidemment prendre le temps de rencontrer l'enfant en amont, de lui expliquer exactement ce que disait Sandrine, qu'il va donner, lui, son idéal. Il va dire ce qu'il pense maintenant dans cette situation à un moment bien précis. Mais que ce n'est pas pour autant que le juge ira forcément dans son sens, parce que le juge, il a d'autres éléments, il a d'autres tenants et aboutissants. Et puis, lui, c'est l'adulte. Et puis, il a l'expérience, mais on va quand même lui rappeler, voilà, comment ça se passe l'audition, dans quel contexte, même des fois ils veulent savoir si on est en robe, si on n'est pas en robe, si le juge va être dans un petit bureau, dans une salle d'audience, enfin tout ça peut être des éléments extrêmement stressants. Donc nous, on va vraiment rassurer les enfants ou les ados sur ce point-là. Et puis on rappelle que on n'est ni l'avocat de la mère ni l'avocat du père, qu'on ne veut pas entendre les histoires du père ou de la mère, parce que bah voilà, parfois les gens nous emmènent leurs enfants et ils ont envie entre deux de nous raconter, de nous dire mais attendez, c'est super important. Voilà, ne je le dis pour pas que les parents soient froissés, etc. C'est pas que nous nous intéressons pas à vos histoires, c'est que nous devons rester le plus neutre possible en entendant la parole de l'enfant et en restituant la parole de l'enfant. Donc voilà, l'avocat est obligatoire pour les auditions devant le juge aux affaires familiales. Et la deuxième chose que je voulais dire, et ce sera la dernière là-dessus, c'est que aujourd'hui, c'est important parce qu'on l'a de plus en plus, le juge peut déléguer cette audition devant des associations spécialisées qui vont donc ces associations, ces auditions seront confiées aux psychologues pour enfants de ces associations la plupart du temps. Et je le dis parce que les mineurs et même les parents des fois nous disent mais je comprends pas, sur la convocation c'est pas marqué que c'est le juge qui va les entendre, c'est marqué que, alors c'est la SOEDI pour la cité, mais il y a d'autres associations, et voilà, c'est une compétence du juge, il peut déléguer cette audition à une association et un psychologue pour enfants. Évidemment, le psychologue pour enfants va prendre des notes, restituer la parole, interroger l'avocat à la fin de l'audition et restituer l'intégralité au juge aux affaires familiales. Dernière chose aussi, les parents. Bon, c'est jamais la dernière chose avec les avocats, en fait. Les parents.
C'est bien, ils le disent eux-mêmes. J'adore.
Ne peuvent pas avoir accès de copie. Exactement, de l'entretien intégral de l'enfant avec l'association ou le juge aux affaires familiales lui-même. Donc, les avocats, quand il y a avocat, vont pouvoir consulter et restituer, synthétiser, voilà, l'entretien. S'ils n'ont pas d'avocat, ils vont pouvoir consulter, mais jamais en avoir la copie intégrale. Je le dis aussi parce que parfois on nous le demande, mais non, ce n'est pas possible, ça doit rester dans le dossier du juge.
Et est-ce que vous vouliez rajouter d'autres choses sur l'audition des enfants mineurs devant le juge pour enfants? Vous aviez, non, rien d'autre à rajouter sur ce point-là?
Je crois que...
Maître Simone Bulas, vous voulez rajouter quelque chose?
Je tiens à préciser un point, c'est que parfois, vous avez certains mineurs qui souhaitent évoquer un certain nombre d'éléments, ce qui se passe au sein de la famille, mais pour autant ne pas vouloir que les parents en prennent connaissance. Oui. Donc très rapidement, le juge, selon les juges, vous avez certains juges qui partent du principe que tout ce qu'ils disent devra être rapporté dans un écrit pour qu'ils puissent s'appuyer sur ce qui a pu être dit dans leur décision. Et vous avez d'autres juges qui, au contraire, acceptent que les enfants puissent parler ce que j'appelle en off, c'est-à-dire évoquent un certain nombre d'éléments sur la situation familiale. On parle de violence, souvent c'est des violences, et de ce fait, ce n'est pas mentionnée sur le rapport d'audition des enfants. Et certains parents sont extrêmement surpris de voir que parfois certains rapports sont très courts et ne mentionnent pas grand-chose. Et lorsque la décision est rendue, on s'aperçoit qu'il y a plus d'éléments. Et justement, c'est pour libérer la parole de l'enfant, lui permettre de dire ce qu'il a envie de dire, sans pour autant avoir cette culpabilité et surtout subir les représailles, les reproches de la part de l'un des parents par la suite. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de le préciser, puisque certains enfants souhaitent parler, mais ont peur de le faire, tout simplement par peur de subir les représailles de l'un des parents, puisqu'on sait que derrière, certains subissent lorsqu'ils sont entendus par le juge des affaires familiales. Donc, il faut rassurer l'enfant et lui rappeler qu'il y a cette possibilité de dire, de rapporter un certain nombre d'informations sans pour autant que ça soit mentionné dans le rapport. Et je pense que le plus souvent, les enfants, à partir de là, sont beaucoup plus rassurés et se permettent de dire un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas évoquées si dès le départ, on leur dit, tout sera rapporté. Donc, de ce fait, bien souvent, ils sont taisants.
D'accord. Vous dites qu'il y a certains juges et d'autres non. Alors, ça veut dire qu'il y a des pratiques différentes. Non, mais c'est important de le rappeler, Maître Gaspard.
Le problème, c'est qu'on a quand même un principe procédural clé qui est le principe du contradictoire. Donc, en principe, tout ce qui est dit doit effectivement être restitué. Et ce que disait Simone à juste titre, c'est qu'en réalité, le juge, normalement, dans son jugement, dans sa décision, il ne peut pas faire état d'un élément qui n'a pas été porté à la connaissance de l'une ou l'autre des parties. Donc c'est extrêmement délicat. Par contre, c'est vrai, on a beaucoup de mineurs. Alors moi, des fois, j'ai la petite technique. Ils me disent, tu peux lire toi à ma place. Donc effectivement, avec leur accord, je prends la parole en dernier et je m'assure évidemment qu'il est d'accord et je le dis à sa place. Ça, c'est une des choses parfois qui les déculpabilise un petit peu. Et la deuxième, c'est que si jamais il y a des faits de violence de dénoncer, moi j'ai eu un cas de violence sexuelle de dénoncer. Et c'était extrêmement compliqué pour la mineure, etc. Le juge n'en a pas fait état dans son jugement. En revanche, il a la capacité de saisir le procureur de la République de ces faits-là, de faire un signalement, soit transmis. Enfin, je vous passe les articles, mais en tout cas, il a cette capacité. Donc, il peut ne pas le mettre dans sa décision, mais il a des outils pour que quand même ces dénonciations soient portées à la connaissance du procureur et éventuellement d'un juge des enfants et des enquêteurs.
Merci pour toutes ces précisions. Le sujet est vaste, dense et passionnant, mais il nous faut nous détendre et je vous propose pour ce faire d'écouter du bon son. Merci, à tout de suite.
Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage
tu ne les écoutes pas. Quand ils disent ce n'est pas de ton âge, et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocates en droit de la famille. J'ai le plaisir de recevoir maître Julie Gaspari, maître Sandrine Abécassis et maître Simone Bulas. Et nous terminons cette émission avec de nouvelles questions des auditeurs. Une question pour vous, maître Sandrine Abécassis, alors qui concerne cette fois la situation de grands-parents. Parce que on a parlé des couples mariés, non mariés qui se séparent, mais quid des grands-parents aussi qui sont un peu les dommages collatéraux de ces séparations. Nous avons reçu une question qui est la suivante. Mon fils a deux petits garçons de 12 ans et 16 ans. Il a déménagé dans l'est de la France et nous n'avons plus de contact avec nos petits-enfants alors que nous les gardions auparavant une semaine à chaque vacances scolaires. Peut-on saisir un juge pour obtenir un droit de visite et d'hébergement concernant nos petits-enfants?
Alors d'emblée, la réponse est oui.
Ah, c'est une bonne nouvelle, ouais. Ça déjà.
C'est pas pour autant qu'ils auront gain de cause. Mais la réponse est oui, parce que le texte prévoit que c'est un droit de l'enfant de maintenir et d'entretenir des relations avec les grands-parents. Donc bien sûr que les grands-parents peuvent demander à ce qu'il leur soit accordé des droits de visite et d'hébergement à l'égard des petits-enfants. Et le juge aux affaires familiales est également compétent en cette matière. Alors évidemment que c'est pas parce que les grands-parents réclament un droit qu'ils vont automatiquement obtenir ce droit. Parce que le juge aux affaires familiales va prendre en considération toujours l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, pour fixer des droits ou pas avec les grands-parents. Et surtout, le juge aux affaires familiales peut rejeter une demande de fixation de droit de visite des grands-parents à l'égard des petits-enfants en cas de motif grave. Et vous imaginez bien, Sonia, que si le fils en question est parti dans l'est de la France et qu'il ne donne plus de nouvelles à ses parents, c'est que manifestement il y a un conflit familial. Donc en cette matière, qui est une matière très très délicate, hein, les demandes de droit de visite des grands-parents à l'égard des enfants, parce que forcément ça règle des conflits entre les parents et les enfants, et souvent des conflits ancrés, anciens, difficiles, cette matière-là en particulier, elle nécessite la médiation, et souvent la médiation, elle est ordonnée par le juge aux affaires familiales. En préalable, le juge va ordonner une médiation pour que l'enfant, les parents, donc les grands-parents des petits-enfants, puissent renouer un dialogue. Et si c'est pas le cas, le tribunal va apprécier la demande des grands-parents en fonction de l'intérêt des enfants et s'il est effectivement nécessaire de maintenir des relations. Également, en l'espèce là, je rappellerai que c'est donc le juge d'affaires familiales du lieu de résidence des enfants qui est compétent. Et je dirais par ailleurs que l'avocat est obligatoire, sauf erreur de ma part, mais l'avocat est obligatoire parce qu'on est dans le cadre d'une procédure écrite. Et je dis également que en cette matière de fixation de droit de visite d'hébergement des grands-parents, il est impératif d'être accompagné dans le cadre d'une éventuelle médiation et que les enfants peuvent être également être entendus. C'est un droit des enfants d'être entendus, y compris si c'est des grands-parents qui demandent l'instauration à leur profit d'un droit de visite et d'hébergement.
C'est très clair. Merci beaucoup, parce qu'on oublie parfois aussi que les grands-parents, voilà, ont envie de voir leurs enfants. Mais vous avez raison, ça peut ouvrir aussi d'autres discussions sur des conflits non réglés. Donc merci pour toutes ces précisions. Une dernière question pour vous, Maître Simone Bulas. J'ai divorcé en 2016. Mon ex-époux a refait sa vie et n'accueille plus nos enfants le week-end comme prévu dans la décision de divorce. Par ailleurs, le montant de la pension alimentaire ne couvre plus les besoins des enfants qui ont grandi et ont entamé des études supérieures. Que puis-je faire ?
Alors, c'est une question qui revient régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on accorde un droit de visite et d'hébergement pour l'un des parents, c'est un droit. Ensuite, libre à ce parent de l'exercer ou non. Malheureusement, dans la réalité, après la séparation, vous avez souvent l'un des parents qui exerce dans un premier temps régulièrement et puis progressivement ne l'exerce plus, sans aucune raison. Bien entendu, ça génère des frais supplémentaires, puisque lorsque les enfants qui devaient bien souvent se rendre un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires au domicile de l'autre parent, pour le parent gardien, c'est des frais en moins. Donc, à partir de là, il ne faut absolument pas hésiter à saisir le juge aux affaires familiales pour faire état de la situation. La seule chose, c'est que il faut quand même attendre un petit peu. Par exemple, si le père ou la mère n'exerce plus ce droit depuis 2 ou 3 mois, ce n'est pas suffisant. Bien souvent, on vous demande d'attendre au moins 8 mois, 1 an, justifié d'un certain nombre de documents pour pouvoir démontrer que ça perdure dans le temps. Et donc, de ce fait, la pension doit être révisée. Pour qu'il y ait une révision de la pension alimentaire, on parle de changement significatif dans la situation respective de chacun des parents. J'insiste sur le terme changement significatif. Cela signifie que il faut que les revenus des parents ont changé. Ça peut être à la hausse ou à la baisse. Mais on parle également de besoins plus importants. Bien entendu, un enfant de 6 ans n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant de 14 ans et un enfant de 18 ans. Donc à partir de là, bien souvent c'est les études supérieures qui posent difficulté, et donc de ce fait, il faut justifier, bien souvent il faut qu'il y ait une discussion en amont. On vous parle d'un accord préalable. Si cette discussion, cet accord préalable a existé, tant mieux, puisqu'il faut le démontrer lorsqu'on saisit le juge aux affaires familiales. Ensuite, il faut démontrer que l'autre parent refuse sans aucune raison. Et donc, à partir de là, soit le parent qui, dans un premier temps, a accepté, mais refuse par la suite de payer les frais de scolarité selon l'accord qui a été convenu entre les parents, à partir de là, c'est encore plus simple. Il suffit de démontrer qu'il y a eu un accord, que par la suite, le père ou la mère a changé d'avis. Et donc, de ce fait, le juge va pouvoir trancher plus aisément. La difficulté, c'est lorsque l'un des parents refuse alors qu'il en a la possibilité et les moyens. Et donc, de ce fait, il va falloir constituer un dossier. Le plus souvent, c'est bien mieux d'être accompagné par un avocat, puisque l'avocat a l'habitude de gérer ce genre de situation, de demander un certain nombre de documents qui sont indispensables pour voir cette révision de la pension alimentaire. Et donc, de ce fait, pouvoir démontrer au juge qu'il y a ce changement significatif dans la situation de chacun des parents et que on a un refus injustifié. Et donc, à partir de là, c'est au juge de trancher la question pour pouvoir déterminer à quelle proportion les parents vont devoir supporter les frais. Ça peut être à hauteur d'un tiers, deux tiers, la totalité pour l'un des parents, puisque si l'un n'a pas la capacité financière de les financer, alors que l'autre a aisément les moyens financiers de le faire, bien entendu, le juge n'hésitera pas à mettre à la charge d'un des parents ses frais de scolarité. Mais je pense que c'est tout un dossier qu'il faut monter. On pense que c'est simple, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien souvent, lorsque les parents arrivent seuls à l'audience, le juge leur demande renvoie le dossier et leur demande de prendre un avocat, puisque le juge n'a pas les éléments nécessaires pour statuer et prendre sa décision. Et donc, c'est la raison pour laquelle je conseille de prendre un avocat dès le départ pour être accompagné, conseillé et préparer au mieux ce dossier.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maître Julie Gaspari, pour clôturer de manière un peu positive cette émission, vous nous parliez des couples non mariés et des couples non mariés qui se mettent d'accord. Est-ce qu'ils peuvent entériner un accord, par exemple, devant un juge ?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, heureusement, il y a des gens qui arrivent à se mettre d'accord, à se séparer en bonne intelligence et malgré les conflits, et ce, dans l'intérêt de leurs enfants. Et donc, ils vont vouloir la plupart du temps, et d'ailleurs, si je le dis aux auditeurs, il faut entériner ces accords-là par écrit, non pas par défiance envers l'autre, mais parce que premièrement, on ne sait jamais de quoi la vie sera faite, et puis voilà, on peut être amené aussi à parfois être en désaccord, et dans ce cas-là, on va se référer justement à cet accord écrit, et puis aussi simplement parce que les établissements scolaires aussi des fois peuvent demander à avoir une décision de justice ou un accord, donc pouvoir justifier de ce qui est mis en place auprès des tiers, c'est aussi une possibilité, enfin des institutions en tout cas. Donc cet ancien couple, ce couple parental qui s'est mis d'accord a la possibilité de signer ce qu'on appelle une convention parentale. Alors évidemment, l'idéal, c'est de la faire rédiger par un avocat, puisque encore une fois, nous pouvons conseiller au mieux et mettre précisément les éléments qu'il faut dans cette convention parentale. Cette convention parentale va fixer les modalités de la résidence de l'enfant, les droits de visite et d'hébergement de chacun, et puis les frais. Qui prend quoi en charge, le montant de la pension alimentaire, s'il y en a une, etc., etc. Et puis on peut même cibler, on peut même lister, voilà, dans le partage des frais, il y aura le permis de conduire, il y aura l'abonnement du portable ou pas. Mais voyez, on peut y mettre un petit peu, c'est un accord, c'est un contrat, donc on peut faire en fonction et on peut, voilà, faire vraiment en fonction de chacune des situations. Cette convention, il faut qu'elle soit homologuée par un juge et dans ce cas-là, on a une procédure un peu accélérée puisque lorsqu'on va saisir le juge, on va préciser que c'est pour homologuer une convention parentale. Donc, on va tout simplement déposer cette convention, expliquer au juge la situation, mettre les pièces nécessaires s'il le faut et le juge, voilà. Rendra cette convention dite homologuée, c'est-à-dire avec un coup de tampon, avec une officialisation de cet accord. Je précise juste que rien n'est figé dans le marbre et que les parents restent quand ils sont tous les deux détenteurs de l'autorité parentale, ils restent maîtres de la situation. Donc si un jour, on a finalement envie de changer parce qu'il y a un week-end d'anniversaire, parce que finalement Noël cette année on le fait ailleurs et qu'on a envie de changer, mais que c'était pas comme ça que c'était prévu, si les deux sont d'accord, évidemment qu'ils peuvent changer. Ils n'ont pas besoin de ressaisir un juge pour ces petits arrangements ponctuels. Donc cette convention, on dit dans notre jargon qu'elle s'applique à défaut de meilleur accord. Les parents restent responsables, ils restent maîtres des choses. Tant qu'ils sont d'accord, ils font bien comme ils veulent. En cas de désaccord, il y a cette convention qui s'applique. Et dernière chose, si jamais il y a une modification, donc un changement significatif ou un élément nouveau dans les situations respectives et qu'on a envie de faire changer cette convention, c'est tout à fait possible. Voilà, rien n'est figé jusqu'à la majorité de l'enfant. Les choses peuvent se moduler, heureusement.
Merci Maître Gaspari, merci à toutes les trois d'avoir été les invités de cette émission consacrée aux droits de la famille. Maître Sandrine Abécassis, vous reviendrez nous voir.
Avec plaisir. J'ai encore plein de choses à dire.
Ah, je n'en doute pas. Tous mes invités ont toujours tellement de choses à dire et moi j'ai tellement de questions à leur poser que j'espère, le plaisir de vous avoir de nouveau à ce micro. Merci pour votre expertise, votre expérience. Maître Julie Gaspari, je vous pose pas la question puisque vous revenez régulièrement.
C'est vous qui m'invitez.
C'est vrai, c'est toujours un plaisir. Maître Simone
plaisir
Bulas.
Partagé.
Merci. Maître Simone Bulas, vous reviendrez nous voir également.
Bien entendu, c'est un plaisir.
Merci beaucoup. Je recevrai donc chaque mois, une fois par mois, des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions. La prochaine émission du 2 mars 2026 sera consacrée au droit pénal. Vous pouvez d'ores et déjà nous adresser vos questions à l'adresse tldidfm@gmail.com. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio. Belle journée et excellente semaine.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Oh, Peggy de Turkey. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Oh. I love, I love, I love, I love, I love you. Oh. Oh, baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Je vais casser toutes mes montres, peu importe ce que ça va me coûter. Oh. Quand j'aime, le temps doit pas s'écouler. Oh. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé. Oh ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché. Oh. Oh pourquoi j'ai mal, mal, pourquoi je suis blessé. Oh. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh. Oh c'est lui qui sait. Et son plan est déjà calé. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love. Laisse-moi guérir, tout est beau pour ma chérie. Je ne peux plus souffrir, souffrance même cherche à te fuir. Écoute ma poitrine, mon cœur a des choses à te dire. Allez, donne tes larmes, redonne tes cris. Tout ce qu'ils t'ont fait, on va oublier. Prends-moi cadeau, fais-moi oublier mon gourmand. Allez, prends-moi tout, garde-le pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux. Oh baby, I love, I love, I love, I love.
J'ai une baby caribbean, mon rebeu je l'appelle Ainia. Elle wine wine comme Rihanna, elle est plus fraîche qu'une poupillade. Elle a eyes contact, j'ai du tact, elle sourit quand je la touch. Elle veut mais elle le cache, un peu tactile, elle veut que je remarque sa French. Je la vérité, celebrity, je la garde black illimité. Elle est pretty, j'suis pas un petit, j'ai mis des plans forts sur son BBL.
Adam, tout. J'en ai beaucoup, mais lui j'aime trop son goût.
Tout,
follow me, homérie. Pédicure, j'ai mis les muali. J'cambre mieux que les filles d'Amérique. Homérie, tu sais que j'le mérite.
Salam alaikum, des mafos, j'ai recaldos. Bad girl, Guyana, machine Arcos. Même s'il y a le riad, elle est méchant, you vois. J'aime quand sa langue se porte dans le couloir. Il aime comment je bouge sur du ragada. Il me trouve so sweet comme Tagada. C'est mon piercing, je le montre, on fait hudada. Mon boulet trop balèze pour Halaya.
Fini Galdem.
J'en ai beaucoup, beaucoup. Mais lui j'aime trop son goût.
Toudou bébé, tu me donnes beaucoup bébé. Toudou bébé, tu me donnes beaucoup bébé.
Fidigal dem,